Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Nous allons continuer le voyage du Globetrotter autour du monde. Et cette fois-ci, c'est en Polynésie. Voilà. Au début des années 70, j'ai été affectée au centre de Hao, CEP, le centre d'essais du Pacifique, dans le cadre des essais nucléaires. On y armait de vieux hydravions datant de la dernière guerre, des PBY-5A, des Catalina. Le voyage était à la mesure du pays, un continent, que j'allais découvrir. Une demi-journée de vol Paris à Québec, plusieurs heures enfermées dans l'aéroport, car il y avait un contentieux alors entre la France et le Canada, plus une demi-journée de vol de Québec à Los Angeles, avec le survol interminable des abords de cette ville immensément étendue, et une nouvelle attente de plusieurs heures dans un couloir avec un distributeur de coca ne fonctionnant qu'avec des PS américaines. Enfin, une dernière demi-journée de vol de Los Angeles à Tahiti et l'atterrissage sur l'eau ou quasiment. L'aéroport de Tahiti est gagné sur la mer, comme celui de Bora Bora. Et quand on se pose, on voit rien du tout, que la mer alentour. Thank you. En sortant de l'aéroport, plongé dans la fournaise, un bel accueil. Des jeunes femmes polynésiennes nous encerclaient de couronnes de tiarés. Leur odeur intense, comme celle du jasmin, mais plus forte, ajoutée à la fournaise, nous mettait dans un état second. Après, enfin, un vrai repas et une nuit au camp d'Arué, une nouvelle demi-journée d'avion nous déposait à Hao. Hao, lorsque j'ai pris mon poste, je n'ai trouvé aucune info. Je prenais une succession un peu difficile. Mon prédécesseur n'avait accompli qu'une très courte période à ce poste. Il succédait à un technicien qui avait tenté de se suicider en se tirant une cartouche d'alarme dans la bouche. Le pauvre avait été sauvé, mais rentré au pays, il s'était noyé lors d'une partie de pêche. L'histoire était toujours la même, un problème de communication avec l'épouse restée en métropole. Problème amplifié par la distance et l'impossibilité d'échange de vive voix. Pas de téléphone. Et c'était le drame. Un collègue reçoit un courrier de sa banque refusant d'honorer un chèque important. « Ma femme a pris l'argent, elle est partie. » En réalité, la femme avait suivi scrupuleusement les consignes convenues. Elle venait d'acheter un salon neuf, mais il y avait eu un retard dans l'arrivée de la paye. Et j'ajoute à ce récit un extrait de presse, extrait de RFI, édité par le site Disclose. Nouvelle révélation sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires en Polynésie française, par Agnès Rougier. Entre 1966 et 1974, l'armée française a procédé à plus de 40 essais nucléaires atmosphériques au cœur des atolls du Pacifique, en Polynésie française. Les milliers de documents déclassifiés analysés par le site Disclose et les membres du programme Science et Sécurité de l'Université de Princeton démontrent qu'un territoire aussi vaste que l'Europe a été touché par les retombées radioactives, contaminant 110 000 personnes. Sur les 193 tests nucléaires effectués à Mururoa et à Fangataufa, en Polynésie française, 46 étaient des essais atmosphériques, c'est-à-dire dont les retombées radioactives se répandent dans l'environnement le plus large au gré des vents et des pluies. Le 2 juillet 1966, la première bombe atomique, au nom de code Aldébaran, explose sur une barge ancrée dans un lagon bleu à côté de Mururoa. Quelques microsecondes après l'explosion, une boule de feu de plusieurs milliers de degrés s'élève en l'air et vaporise tout ce qu'il y a autour. En refroidissant, la masse se transforme en un énorme nuage radioactif, le fameux champignon atomique, qui, dans les 10 minutes, sera dispersé par le vent. À 424 km de là, les 450 habitants des îles Gambier, renommées pour la culture des perles noires, n'ont pas su qu'ils venaient de recevoir une douche radioactive. Plan de prévention inexistant. Avant la première explosion, le haut commandement de l'armée française avait décidé de ne rien faire pour protéger les populations, afin de garder une image positive de ce programme de test. L'armée française avait, en principe, tout prévu. Les cartes militaires qui ont été déclassifiées dessinent une zone de danger radiologique, formant un cône d'un millier de kilomètres vers l'est à partir de Mururoa, mais pour les îles Gambier, étant juste à l'extérieur de ce cône, aucune mesure de protection n'a été prise. Et 3 heures avant l'explosion, la météo annonça un vent soufflant à 1500 mètres d'altitude, vers le sud-est, en direction de Mangareva, l'île la plus peuplée de l'archipel. L'armée en eut connaissance, mais la bombe explosa quand même. L'explosion du 2 juillet a entraîné une radioactivité des sols s'élevant à 61 millions de becquerels au mètre carré. Niveau atteint uniquement lors des catastrophes nucléaires les plus graves. Les îles Gambier ont été contaminées 31 fois par des retombées radioactives. Des essais lourds de conséquences. Dans la population des îles Gambier, il y avait, d'après les chiffres de l'INSEE, 61 enfants, entre 4 et 8 ans, présents lors de la première explosion. Or, les enfants sont particulièrement sensibles aux radiations, et surtout leur thyroïde, la glande la plus sensible à l'iode radioactive présente dans les retombées. Sur l'ensemble des atolls touchés par les retombées radioactives, le nombre de cancers est plus élevé que la moyenne, et l'hypothèse la plus plausible est qu'ils sont la conséquence des explosions nucléaires. Un rapport demandé par le gouvernement local de la Polynésie française en février 2020 montre en effet l'abondance anormale de cancers de la thyroïde dans la population. Il s'agit du premier document officiel y faisant référence, mais il n'a pas été rendu public. En complément, l'ONG Disclose a recueilli de nombreux témoignages de familles entières décimées par des cancers variés. Cancer du sein, de la peau, de la gorge, mais aussi de nombreux cancers de la thyroïde.
Tautaro mai o e matau, te taparo nei matau ya, e to ua tu ai. Te taparo nei matau ya, e to ua e, ae. Tau atua, pia, 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 taro mai ra o e taori mai, tautaro mai o e matau, te taparo nei matau ya, e to ua tu ai. Eta paru nei matau ya, eto auae, ae.
Autre essai, autre victime. En 1971, la France commence sa 5e année de tests d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud. Cette fois, il s'agit d'une bombe à l'uranium enrichi, nom de code Encelade. À 22h15, le 12 juin 1971, la bombe explose, expulsant 500 kilotonnes d'énergie. Un nuage atomique géant commence à être poussé par le vent. Il atteindra le petit atoll de Toureia, dans l'archipel des Tuamotu, à 117 kilomètres de Mururoa, à 7h le lendemain matin. Les 68 habitants de Toureia n'ont pas été évacués avant l'essai. Or, il pleut dans la nuit du 12 au 13, et la pluie qui tombe contamine la population, les réserves d'eau potable et les sols. Le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, dresse alors des cartes de la contamination, mais elles ne seront pas communiquées à la population. Enfin, en 1974, une bombe au nom de code Centaure explose malgré des prévisions météo défavorables. Les enquêteurs de Disclose estiment qu'elle a contaminé 110 000 personnes sur Tahiti et les îles alentours. Responsabilité de l'État français. L'État français, par le CIVEN, Comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, reconnaît une victime des retombées quand la personne a reçu une dose de radioactivité supérieure à 1 millisievert par an. Mais pour l'instant, peu de victimes ont été officiellement reconnues. 454 victimes étaient dédommagées en novembre 2019 et un rapport récent du ministère de la Santé polynésien suggère un chiffre de 10 000 victimes pouvant demander compensation. Mais les calculs de Disclose en rapportent 10 fois plus. Le CEA a effectué en 2006 une estimation des contaminations et donc des victimes potentielles. Mais Disclose démontre que les mesures qui enregistraient les plus forts niveaux de contamination ont disparu des cartes. Leurs calculs sous-estiment en réalité largement l'impact des retombées radioactives et donc la reconnaissance du nombre de victimes potentielles. Dans le CEP, le Centre d'essai du Pacifique, Oahu était la base avancée. Retour au souvenir du Globetrotter. Dans le CEP, le Centre d'essai du Pacifique, Oahu était la base avancée. À Tahiti étaient l'état-major, les militaires spécialisés et les centres de repos. Les sites d'expérimentation étaient Fongatofa, discrètement abandonné, car une bombe aurait brisé l'un des pieds de l'atoll. Et Mururoa, le site d'expérimentation utilisé à cette époque. Des photos actuelles montrent un environnement comparable au reste de Tchernobyl. Les archipels alentour, les îles Austral, Marquise, Gambier, Tuamotu, ont vu des stations météo et radiologiques s'installer dans leurs îles ou atolls, Fakarava, Mangareva, Rapa, Rangiora, Reao, Temantangi, Tureia. L'un des rôles de notre formation était de ravitailler, d'après les commandes officielles, et aussi des commandes officieuses. En général, l'officieux, c'était des caisses de bière et de whisky. Cette partie ne pouvait exister officiellement. Alors les caisses étaient entreposées entre les sièges et personne ne voyait rien, pas même l'amiral commandant le centre CEP. Et tous levaient les pieds. Le Catalina avait parfois du mal à prendre son vol. Nous devions aussi assurer la relève des permanents sur ces îles et promener les VRP invités lors des explosions, c'est-à-dire des politiques diverses, des étrangers, la presse internationale, etc. Accessoirement, nous allions au secours des habitants des atolls autour d'Ao. La Polynésie est grande comme l'Europe de l'Ouest. On se dirige aux instruments d'île en île ou d'atoll en atoll. Mais on repère les îles de fort loin car elles sont très hautes et sont systématiquement surmontées d'un petit système nuageux. Lorsqu'on va d'un atoll à l'autre, l'équipage surveille par le hublot et nous, simples invités, on a une petite utilité. On repère les signes marins. Les marins tahitiens, réputés, se guidaient en mer sur la forme et l'organisation des vagues. Tahiti Nuit, la grande île, est hérissée de plusieurs sommets, le mont Oroena, le mont Aorai, de plus de 2000 mètres, et plusieurs monts de plus de 1000 mètres, la petite île Tahiti Iti, dépasse les 1000 mètres elle aussi. Tahiti, Bora Bora, Waine, Raiatea, Taha, Moorea sont d'anciens volcans, entourés d'abord d'une plaine côtière où se concentre l'essentiel des cultures et du peuplement. Ensuite, il y a un lagon, c'est-à-dire un espace marin peu profond, puis une barrière de corail, avec plus ou moins de passes récifales, c'est-à-dire d'ouvertures dans les massifs coralliens qui permettent de rejoindre la haute mer. La surface de chaque zone est très variable. Elle peut même aller jusqu'à disparaître. La route côtière passe parfois par un bout de barrière de corail, ou bien elle est creusée à flanc de montagne. Elle ceinture l'île, mais peut s'arrêter en route, comme à Tahiti. L'hydravion Catalina n'est pas très rapide, mais ses possibilités sont importantes. Long rayon d'action, en cas de surcharge, 100 mètres de plus pour le décollage. Possibilité de se poser sur terre ou sur mer. Volant bas et lentement, on profitait pleinement de la vue. Le système nuageux à l'approche des îles, les volcans couverts d'une forêt dense, les platiers, sortes de falaises crayeuses émergées à la suite des mouvements sismiques, avec cette eau si claire qu'on pouvait distinguer des tortues marines, des jeux de couleurs variant selon la profondeur, avec parfois des failles profondes et obscures. Ce zinc était si maniable que sur un atoll, j'ai oublié lequel, il se posait sur une piste d'amérissage qui faisait un angle. Une autre fois, impossibilité de sortir le train d'atterrissage. Le kata s'était posé sur l'eau. Nous l'avons réparé. Il a redécollé et nous avons pu le poser sur la piste. Plusieurs Catalina ont coulé dans ces eaux, non pas lors des mouvements, mais suite à des amarrages hasardeux, pendant que l'équipage prenait contact avec les autochtones. Ils résistaient même au rayonnement nucléaire. Nous les badigeonnions avec un peu de lanoline et ils pouvaient faire le tour du nuage atomique. Bien sûr, peu d'hommes d'équipage ont fêté leur 50e anniversaire. Mais c'était un manque de chance. Affectés à Ao, où les distractions n'étaient pas nombreuses, pêche, plongée, visite à des amis sur les motus et soulerie programmée. Nous avions sympathisé avec mamie et papy, un couple polynésien très âgé, qui s'était réfugié sur un motu, petite île de sable comme celle que nous connaissons sur nos fleuves, de l'autre côté de l'atoll d'Ao par rapport à notre base. Ils vivaient de pêche. Leurs chiens dressaient, plongeaient et récupéraient des poissons à la volée. Ils cultivaient quelques légumes dans des carrés de planches garnis de cadavres de requins recouverts de sable. Le melon avait un arrière-goût de poiscaille. À chaque visite, nous leur apportions quelques vivres fraîches, du beurre, de la bière, du tabac. Mamie surtout aimait se rouler sa clope. Il remerciait, mais ne demandait jamais rien. Nous avions droit, périodiquement, à une huitaine de jours sur Tahiti. Ofmar, tous, c'est-à-dire officiers de marine, nous étions logés au camp d'Aroué. Le problème à Tahiti, comme à Ao, c'était le déplacement. Sur les grandes îles, il y a bien les trucs. Un véritable monument assurant le transport collectif. Un truck, c'est un espèce de petit autobus composé d'un plateau sur lequel est fixée une caisse en bois, peinturlurée de couleurs vives, garnie de bancs et surmontée d'un toit rustique avec de pseudo-vitres en plexiglas. Ça ressemble à un wagon du petit train toulousain qui fait le tour de la ville rose avec les touristes. La quinzaine de voyageurs assis côte à côte et face à face, souvent vêtus de couleurs vives et de couronnes de fleurs, est ballottée et bousculée à chaque arrêt. Ça crée des liens et facilite le contact humain. Il n'y a pas ou peu d'arrêts prévus. Un signe et le conducteur arrête son engin, comme il peut. Il n'y a pas de billet. Le passager annonce la destination, le conducteur annonce le prix, et on lui met dans la main la somme convenue. Un fil avec une sonnette permet d'avertir du désir de s'arrêter. Une dizaine de petites sociétés assurent ce service sur Tahiti. Ils font le transport d'enfants, Utara Tamari, le transport de marchandises et le transport en commun. Les jours de fête, la carrosserie est décorée. Il n'est pas rare qu'un ukulélé joue un morceau pour le plaisir de tous. Il semble que les exigences de l'Europe unie aient fait disparaître ces trucs. J'avais utilisé ma prime d'expat pour acheter une deux chevaux à Papeete, un spad, un scooter, à Ao, ainsi que le car d'un puissant hors-bord. Je profitais d'une certaine liberté de mouvement. Pour un nouvel arrivant, la Polynésie est un pays plein de curiosités. La première fois que j'ai été dans un de ces bars de nuit, je me suis offert une Inano, bière locale de 75 centilitres environ. La serveuse a rempli mon verre et ceux des tables voisines. Je n'ai rien dit. Quand mon verre a été vide, la serveuse l'a rempli et ça a été comme ça tant que je suis restée à ma place. Le Queens, un monument de Papeete, aujourd'hui disparu. Un immense hangar en front de mer, construit en bambou et couvert de tôle. Deux portes de saloon forment la base d'un grand bar en bois. Au fond, sur la gauche, une pièce carrée entourée d'une rigole sert de toilette. Pour se soulager, on se réfugiait dans un coin. « Ah chérie, tu m'éclabousses !» Après cette entrée en matière, nous avions fait connaissance et je l'ai raccompagnée chez elle. Au déshabillage, j'ai eu une légère surprise. La culotte était déjà équipée d'un petit frère et de ses deux orphelines. Il m'est juste resté le mal de me revêtir, ce qui à Tahiti n'est pas long, et de repartir. Les frères, logeant pas loin, avaient eu le temps de me soulager de mon portefeuille. Je venais de faire connaissance avec un réré, malhonnête, espèce rare selon mes sources. L'ambiance faite de musique, d'odeur de bière, de monoï, l'huile parfumée du tiare, et de créaillerie. On venait chercher les boissons au bar, Inano ou Manuya, puis on tentait de trouver un coin pour siroter. Je m'y étais faite deux copines, deux sœurs, aussi hautes, 1m40, que larges. Costaude a assommé un bœuf. Un soir de fiesta, je les avais draguées et les avais raccompagnées dans leur piôle. Nous avions fait partie à trois, si je puis dire, car malgré mes soins, elles s'étaient endormies presque instantanément. Moi aussi, d'ailleurs. À partir de ce jour, et malgré la fréquentation de Bouge, je n'ai jamais eu d'ennui. J'étais sous protection. Il y avait donc aussi des rérés, mais mes compétences ne me permettaient pas de les repérer. On nous disait « si une fille est belle au Queens, c'est un réré ». L'un des amusements des autochtones était de nous faire danser le tamouré. Nous étions tellement ridicules à tenter d'agiter nos genoux en cadence. Distraction. Faire le tour de l'île. Départ de Papeete. Faa, aéroport de Tahiti, Punahouia, Papara et son jardin de tortues géantes, Arao et le trou du souffleur, geyser maritime, Tayarapu isthme entre Tahiti Nui et Tahiti Iti, route des trois cascades de Faharumai. Les cascades, sites magnifiques, même si on n'en voyait qu'une, et son bassin. Enfin, Arwe, où se trouvait notre centre de repos. Tous les mois, un paquebot passait quelques jours à Papeete. Nous l'appelions le Menopausa, car il promenait des personnes qui avaient travaillé sans relâche pendant 30 ou 40 ans, qui n'avaient pas moins de 50 ans lors de leur voyage. Nous savions trouver ces touristes, des femmes le plus souvent, seules et soucieuses de rentabiliser leur séjour. Nous leur proposions un tour de l'île pour finir au pied des cascades, se baigner, nus évidemment, et plus si affinité. La compagne ravie nous invitait à passer la nuit à l'hôtel Maeva. On ne sait plus qui était le plus fier de montrer sa conquête aux autres. Un peu macho, j'ai longtemps cru être l'artisan de cette conquête et afficher ma gloire. Et puis j'ai compris que nous étions les toutous volontairement attachés par la queue au bout d'un lien inexistant. Les soirées pouvaient être longues à Ao. Beaucoup ne supportaient pas et buvaient. Ça allait jusqu'au suicide. L'un de nos collègues est mort sur les toilettes. Il avait tellement bu que l'effort l'a achevé. Son corps était épuisé. Tous, nous cherchions un moyen de passer le temps. Deux Hoffmar avaient trouvé un moyen original. Chacun, à son tour, écrivait un texte érotique, puis le lisait à l'autre. Si l'auditeur restait stoïque, le texte était considéré comme mauvais. L'émulation créait des chefs-d'œuvre. Peut-être se sont-ils lancés dans l'édition depuis. Nous étions d'une toute petite compagnie et toutes les fins de semaine, nous organisions une fête à notre mesure. Ponche, cochon grillé et pousse. Nous avions la chance de disposer d'un faré, une grande table avec deux bancs protégés par un toit en feuilles de pandanus. Ça ressemble aux feuilles des iris en forme de sabre. Il y a toujours un ou deux types qui aiment préparer des cocktails ou cuisiner. Nous avions les deux spécialités. Comme je disposais d'une voiture pour le travail, j'allais à la Légion acheter un cochon de lait et au village acheter les victuailles ou le poisson. Nous élevions deux cochons noirs pour les manger une fois engraissés. Ils étaient gras depuis bien longtemps, mais personne ne voulait les sacrifier. Un soir, après la fête, nous leur avons donné tous les restes. Le lendemain, à l'aube, je leur ai apporté leur seau d'eau. Ils l'ont vidé d'un trait. Nous avions juste oublié que la harissa donne soif. Très soif. Le Catalina est un hydravion un peu spécial, un bimoteur recouvert de toile que nous devions enduire de lanoline pour l'étancher. Lorsqu'il était passé un peu trop près d'un nuage radioactif, les matelots équipés de bottes, il paraît qu'on ne joue pas avec la sécurité, le nettoyaient au jet d'eau. Nous n'avions pas de compteur GGR. Sur l'eau ou sur terre, il se posait en souplesse. Une seule fois, nous avons été contraints de le poser sur l'eau. Une roue était bloquée. Une fois posé, nous sommes montés à bord, avons ouvert une trappe avec un levier, prévu pour. Nous avons fait fonctionner la roue, il a décollé et s'est reposé sur la piste. Rien ne résistait à cet appareil. Avant de quitter définitivement la Polynésie, j'ai fait un séjour à l'hôpital, gravement atteint d'abus divers et multiples. Je marchais quelques centimètres au-dessus du sol et j'avais 19 de tension. Malgré cet état extrême, le médecin m'a seulement mis à la diète, 700 calories par jour. C'est peu, mais ce fut efficace. Pendant ce séjour, dans une chambre très passante, nous avions un spectacle local. Deux légionnaires, l'un sur le ventre, avec un gros pansement sur le derrière. Il s'était fait exploser le cul, le deuxième, sur le dos, avec aussi un gros pansement, mais de l'autre côté. Il s'était fait exploser popole en voulant honorer recto et verso sa conquête. Cette dernière mésaventure était arrivée à un collègue marin. L'histoire ne dit pas si c'était la même belle, mais lui, obstiné après s'être fait soigner une première fois, avait recommencé, pour le même résultat, si ce n'est que, 2 ans après, la bête ne relevait toujours pas la tête. Pour fêter je ne sais quoi, peut-être la fin des Catalinas, nous avions fait un tour des îles sous le vent, au départ de Tahiti. Bora Bora et son aéroport sur le Motu Mute, Mopiti et son lagon, Huaine et retour sur Ao. Par l'entremise d'une relation tahitienne, nous avons été reçus par son oncle maternel sur l'île de Taha. Elle y avait ses 2 enfants que cet oncle élevait. C'était traditionnel en Polynésie. L'oncle maternel élevait les enfants de la nièce. L'explication que nous avait donnée l'oncle, quand on est jeune, on ne peut pas s'occuper des enfants, c'est fait pour s'amuser. C'était dans les années 70 et ça a dû changer. Dans le même ordre d'idées, une personne handicapée mentale était sous la responsabilité de tous, où qu'elle soit. Si elle avait faim, elle était nourrie. Si elle voulait dormir, elle était couchée. Si elle voulait danser avec vous, il n'était pas question de refuser, au risque de se ramasser une pêche. Et tahitienne ou tahitien, ça cogne dur. Ia, c'est pitié. Et pan. Le garçon s'appelait Napoléon, dit Poupou, et la fille de 10 ans s'appelait Écono, pour économie. Il faut dire que l'oncle avait fait partie du bataillon des mandolines, mais qu'il ne savait pas lire. Il avait entendu parler d'économie et de Napoléon, la pièce de monnaie, pas le personnage. Alors il avait pensé que c'était de jolis noms, très français. À midi et le soir, à l'heure des repas, la mère sortait sur la terrasse et comptait le nombre d'enfants dans le jardin. Elle distribuait autant d'assiettées que d'enfants. Chaque famille faisait la même chose. Personne ne se préoccupait des enfants, mais tout le monde était responsable. Les repas étaient similaires, du poisson cru, du jus de citron, du verre et du riz. Nous étions 3 poopas. Écono nous avait expliqué pourquoi nous n'étions pas beaux. Nous n'avions pas, comme elle, un joli petit nez plat. Aujourd'hui, Écono doit avoir ses 50 ans. J'espère qu'elle a toujours son joli nez plat. À Mo'orea, j'ai eu l'occasion de goûter au fafarou. Pour bien préparer un fafarou, il faut d'abord préparer le miti, marinade d'eau de mer avec des condiments et des abats de poisson, crabe, crevette. On filtre et on stocke. Pour le fafarou lui-même, on découpe des filets de poisson supérieurs qu'on dispose dans une calebasse et qu'on laisse mariner au soleil dans le miti, le temps souhaité. Le goût et l'odeur varient avec le temps de macération. Devant ma grimace, on m'a expliqué que c'était comme le camembert. Ça ne sent pas bon, mais c'est délicieux. Je n'ai pas contesté. Une petite fille de 3 ans avait mangé la mangue dans laquelle sa mère plantait des épingles. Les secours d'urgence avaient été demandés par l'infirmier d'Amanou, proche d'Ao, et le Catalina s'était déplacé et avait ramené la petite fille à l'hôpital militaire. La petite fille avait peur, mais rien d'autre. Plus tard, elle a expliqué avoir retiré les aiguilles une à une. Lors d'une évacuation sanitaire, nous attendions une 15aine de jours pour rapatrier le patient, le temps de s'organiser de prévoir le service médical et d'informer éventuellement l'administration. J'ai eu le plaisir de participer au voyage retour. À l'aller, l'équipage avait offert des vivres et du vin en bouteilles de plastique genre Evian. À notre retour, ils nous ont invités à manger et nous ont donné du vin qui avait vieilli au soleil pendant 15 jours. Nous avons eu l'ordre de finir notre verre de vinaigre. Pendant l'après-midi, nous avons pu parler avec les enfants du village. Ils étaient heureux de voir des pots aux passes. Et nous avions prévu des friandises. Notre interrogation principale était « Mangez-vous du chien ?» Car en Polynésie, autrefois, on mangeait tout ce qui vivait dans le caniveau, les cochons, les chiens, etc. Non, le chien est le meilleur ami de l'homme. Un peu plus tard, à la question « Le chien, c'est bon ?» il fut répondu « Ia maïta, c'est bon !» Il faut dire que nous avions mangé du chien. Les marchands ambulants faisaient exprès de mettre des bouchées de chien dans leurs brochettes. C'était du spécial poopa. En grillade, les Tahitiens préfèrent le porc. J'ai eu l'occasion de manger des viandes curieuses lors de mes pérégrinations. Du chien à Tahiti, de la tortue de mer avec sa graisse verdâtre à Raiatea, de l'alligator à Kourou, du singe à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, avec le gag de présenter la tête de la bête à la fin du repas. Rire jaune garanti. Du serpent à Cayenne, et Dieu seul sait quoi, entouré de terre jaune à Kaduna, au Nigeria. Sur l'atoll, après le travail, il y avait peu de distractions. Il y avait l'alcool, on avait des prix. Franchement allumée, je me suis retrouvée en train de coiffer les extincteurs avec les calbutes, les caleçons, piqués sur les cordes à linge. Ça me faisait bien rire. Ça n'a duré qu'un temps. Un expat, un peu colérique, m'ayant pris pour un voleur, m'avait filé un Orion avant de voir son linge décorer les extincteurs. Il ne s'est même pas excusé. Une fois par an, il y avait la fête de la Légion, Cameroun. Il nous accueillait avec un grand verre de punch, un mélange curieux et puissant contenant entre autres le voile de soie, un parfum très vendu à bord des bateaux. Pendant la soirée, il fallait faire attention de ne pas vider son verre, qui était immédiatement complété. En fin de soirée, je me suis retrouvée en bas de la digue, les pieds dans l'eau, sur le dernier barreau de l'échelle, et chantant quelques chansons de circonstance. Les légionnaires m'ont encouragé à remonter et, pour me consoler, m'ont invité au bar. Ce n'est qu'après avoir remis 3 ou 4 fois ma tournée que j'ai compris qu'ils ne me laisseraient pas payer. Je ne sais pas comment j'ai pu rejoindre le bar de notre camp, ce bar où je me suis battue avec un inconnu dans le même état que moi. Le résultat du pugilat a été longtemps incertain, selon les témoins. Nous nous tenions par le fond du pantalon, selon eux, plus pour tenir debout que pour résoudre ce pugilat. L'autre grande fête, c'était la Sainte Yves, la fête que donnaient les Bretons. Cette fois-là, je restais sobre. J'étais de service. Il fallait assurer. 5 cochons en broche, une 30aine de poulets, en broche eux aussi, des poissons cuits à la tahitienne. Nous avions plus de 300 invités. Une grande et belle fête. Hormis ces jours de fête, il restait les promenades au village. Il n'y avait qu'une gargote, toujours pleine à craquer, et plus chère que notre bar. Et la visite du cimetière, très particulier. Les tombes étaient décorées de colliers, de coquillages, de pierres de couleur, de petits morceaux de bois, de fleurs. Enfin, il nous restait les activités maritimes, la recherche de beaux coquillages et le motonautisme. Nous cherchions les coquillages sur la barrière de corail. Pour les vider sans les abîmer, une technique simple, un peu longuette, on enfouissait les coquillages dans le sable et 10 ou 15 jours après, nous les récupérions, à condition de nous souvenir où nous les avions enfouis et à condition que personne ne nous ait précédés. Du côté lagon, nous pratiquions la chasse sous-marine, la recherche de poissons particuliers, les poissons-pierres, les poissons-port épic, la vue des fonds marins avec son corail. Ces poissons et ces coquillages multicolores pouvaient occuper une après-midi entière. Une curiosité, les petits requins gris au niveau de la passe, des feignants, rangés côte à côte près du fond et à contre-courant. Ils se contentent d'ouvrir la gueule et d'absorber les petits poissons au passage. Qui n'a pas vu un bénitier épanoui n'a rien vu. C'est une sorte d'huître fantastique, aux valves identiques et festonnées, et aux manteaux multicolores. La pêche est interdite pour les spécimens de moins de 12 cm et de plus de 17 cm. Le bénitier ou paoua peut grandir jusqu'à 40 cm. La possession du hors-bord nous occupait grandement, jeu nautique et entretien. Nous nous sommes mis à quatre pour en acquérir un. L'un des quatre copropriétaires nous a rapidement lâchés. Être trois était un chiffre idéal. Le premier conduisait, le second surveillait le troisième, qui faisait du ski. Même moi, malgré mon embonpoint, j'arrivais à décoller. Il faut dire que le moteur était puissant et bien entretenu. Nous y passions une bonne partie de nos loisirs. Nous allions régulièrement sur les motus. Ao est une grande barrière de corail, de forme ovoïde et généralement à fleur d'eau, avec de temps en temps des sortes d'îles coralliques, les motus. Le hors-bord nous déposait sur la barrière de corail aux endroits réputés pour la pêche. Souvent, nous cherchions des crustacés, langoustes et cigales. Les cigales ressemblent un peu aux langoustes. Elles ont un corps aplati, sans rostre ni pince. Les antennes sont en forme d'écailles, larges et aplaties. Elles se consomment comme des langoustes. Aucun de nous ne pratiquait la pêche à la ligne, mais nous pêchions à l'arbalète. Il fallait bien sélectionner le poisson. Beaucoup n'étaient pas consommables. Ils avaient été empoisonnés lors des travaux. Pour une raison inconnue, peut-être était-ce interdit, nous ne sortions jamais de l'atoll. Un soir, j'ai utilisé le Zodiac de service pour une promenade. Lors d'une accélération, le Zodiac s'est cabré et comme un cheval rétif, il m'a vidé. Heureusement, j'avais tiré le manche vers moi. Et le Zodiac décrivait un grand cercle. Après plusieurs tours et tentatives infructueuses, j'ai pu attraper la ligne de vie et me hisser. J'étais encore souple. Une fois à bord, j'ai ramené le Zodiac. Quelqu'un m'a vu et dénoncé. J'ai été interdite Zodiac. Lorsque les Catalinas ont été désarmées, j'ai servi plusieurs mois comme vague-mestre. C'était un poste d'observation. Certains recevaient une lettre chaque jour. Enfin, ils les recevaient par paquet de 3, 4. D'autres n'en recevaient jamais. Je faisais partie de ceux-là. Certains venaient vérifier si je n'avais pas retenu une lettre. Certains écrivaient chaque jour et venaient juste avant la fermeture me donner leur lettre à tamponner et vérifiaient que je la mettais bien dans le sac en partance. Deux ou trois, dont un lieutenant, m'empruntaient des timbres, mais oubliaient de me rembourser. En ce temps-là, les facteurs connaissaient leurs ouailles. Distrait, j'avais préparé une lettre, j'avais mis le prénom du destinataire et la commune. Le facteur avait retrouvé le destinataire, et moi, j'avais cherché longtemps, où j'avais bien pu fourrer cette putain de lettre. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, mais les voyages du Globetrotter ne sont pas finis. Il en reste quelques-uns. J'espère que vous leur ferez bon accueil. Je vous remercie de votre écoute. À la semaine prochaine.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.